Autre radio, autre culture, bonjour. Cette semaine, Autre radio, autre culture et Audio People sont allés au-devant des rencontres de la création sonore 2009 qui se sont déroulées à la SAE, School of Audio Engineering. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la production et post-production en son multicanal. L'Association française du son à l'image a pour objectif de développer des relations, échanger des informations, discuter des méthodes, contribuer à résoudre des problèmes techniques et organiser des rencontres entre les différents intervenants de la chaîne sonore dans la production cinématographique et audiovisuelle. Jean-François Beau, Francis Rothstein, Jean Casanova et Philippe Van Hendrich, avec l'aide d'extraits de concerts, nous présentent leurs travaux sur la prise de son multicanal au moyen de microphones coïncidents et la description d'un outil permettant de décoder ou de dématricer tout type de fichier au format B, DMS et H2Zoom. À vous Jean-François.
Un concert classique avec des instruments classiques de type instrument à cordes. On a aussi un concert qui est le cœur de la radio-télévision de Mongolie. Donc c'est essentiellement du vocal, il y a aussi un peu d'instrumental. Et puis il y a un moment, quelqu'un qui chante, vous savez, quand on chante avec diphtonie, c'est quelqu'un qui chante sur trois pupitres simultanément. Et donc c'est des choses qu'on peut goûter. Alors l'intérêt, c'est que Francis a fait quelques photos du concert qu'il a enregistré. Ça permettra de regarder un petit peu comment la chose a été faite. En ce qui concerne les chœurs de la radio-télévision de Mongolie, je pourrais vous expliquer comment le dispositif a été positionné. Jean a aussi un certain nombre de bruitages, je crois, d'ambiance sur un tournage. Donc il pourra nous expliquer comment a-t-il procédé, qu'est-ce qu'il a fait. Donc c'est très ouvert, c'est pas formaté, c'est à votre disposition. Que dire de ce Soundfield ? Bon, c'est la force et la limite du système coïncident. Vous avez été tout à l'heure alimenté par une autre conférence concernant coïncident versus non coïncident. Ce n'est pas l'objectif de faire un débat, parce que derrière, il y a vraiment des concepts qui sont extrêmement différents. Alors c'est vrai qu'en termes de localisation et de spatialisation, on peut dire des choses autour de ça. Notre objectif, ce n'est pas de rentrer dans une guerre de concepts, c'est simplement de vous faire goûter un certain nombre de captations. Alors ce qui sera intéressant, et peut-être que, entre autres, Philippe pourra nous en parler, dans quel cas, au cours d'un tournage, parce que là, on peut parler d'enregistrement de concert, ça c'est une chose, on peut aussi parler de captation lorsqu'on est en train de faire un tournage de cinéma, et ce qui est intéressant, par exemple, avec Philippe, c'est qu'ayant dans sa besace les différents outils qui sont coïncidents versus non coïncidents, ça peut être intéressant à un moment de se dire à quel moment je vais utiliser quoi, et notamment, où vais-je positionner ce système-là lorsqu'à un moment, je vais faire un tournage. Alors, ça peut se poser en termes de géométrie dans l'espace, je le mets où, puisque c'est lui-même un système géométrique en 3D. Ça peut être aussi une question sur, au moment où la caméra tourne, est-ce que je l'utilise avant, pendant et ou après. Et peut-être que là, il y a un certain nombre de choses à dire autour de ça. Alors, j'ai parlé de l'AFSI. On est ici un peu dans un contexte d'atelier AFSI, mais même si, parce que tout le monde n'est pas de l'AFSI, et donc on n'est pas, l'objectif n'est pas non plus de remplir votre cotisation pour l'AFSI ou quoi que ce soit. C'est pas, ils peuvent quand même s'ils veulent. Mais simplement, on s'est mis un peu dans une démarche à plus long terme, c'est de pouvoir, avec d'autres, échanger sur différents systèmes de captation, parce que soit on n'a pas de matériel et à un moment on va aller chercher un matériel X ou Y en fonction de son besoin, soit on a soi-même un matériel et a priori quand on a un matériel, on est plus à amener ce matériel-là plutôt qu'un autre. Et donc ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est pas de rentrer dans un débat de concept ou d'opposer des marques ou des modèles par rapport à l'autre, c'est d'arriver à se dire quand je suis dans tel contexte, alors tel environnement est peut-être un peu plus approprié qu'un autre. Et si on arrive à s'éclairer mutuellement sur cet aspect-là, peut-être qu'on aura fait avancer un peu le schmilblick. L'AFSI, c'est l'Association française du son à l'image. C'est une association qui s'est créée il y a un peu moins d'un an et qui regroupe un certain nombre de personnes qui travaillent sur ces sujets-là, qui a une caractéristique, c'est que l'association est récente, mais elle a pris une importance assez forte très vite. Et il y a entre autres une activité tous les mois, dans lequel il y a différents sujets qui sont traités. Il y a quelque temps, on a passé trois quarts de journée avec le directeur technique de Sennheiser pour travailler spécifiquement sur les micros HF Un peu plus tôt, il y avait cette réunion qui s'est passée ici, dans cette salle, où on a passé une journée sur le son multicanal. Il y a actuellement un atelier qui se décompose dans le temps autour du son seul. Il y a eu une journée qui s'est passée dans un studio avec Gérard Lamps, où on a parlé de différents sujets. Enfin, vous allez sur le site, c'est afsi.eu. Et puis là, vous pourrez voir différentes activités qui sont proposées par l'association. Mais il y a aussi Perchman qui n'organise pas, entre guillemets, des manifestations, mais qui est un site remarquable dans lequel vous avez la possibilité aussi d'interagir de façon régulière. Donc, Jean, tu veux...
Voilà, donc moi, j'interviens d'une manière un peu particulière ici. C'est que j'ai été amené à mettre en place pour DCA l'infrastructure d'écoute pour le Centre-Field. En effet, on a un ingénieur du son qui s'appelle Pierre Gauthier qui est parti faire un tournage de série et la production lui a demandé « Fais-nous des ambiances en 5.1 avec le Centre-Field ». C'était une commande de la production. Sans réfléchir plus en avant à ce que ça implique au niveau du tournage, au niveau du montage et au niveau du mixage. Le Centre-Field n'est pas très développé en France dans les boîtes de location, que ce soit chez Tapage ou chez DCA. Il a déjà fallu fournir un micro qu'on puisse percher, qui soit isolé dans les bruits de manipulation et qui soit aussi bien isolé question vent. Ce n'est pas le cas du 350, à part avec le prototype de la bonnette qu'a fait Philippe de chez Cinella. Le problème aussi du 200 que vous voyez là, c'est qu'il était trop long pour rentrer dans une bonnette ZFX. Donc, il a été pris la décision de couper le corps du micro. C'est ce qui est là. En fait, le micro a été raccourci de 2 cm. Et ça a été fait en accord avec Centre-Field, qui a donc validé cette solution et qui maintenant fait des micros SPS 200 plus courts qui permettent de rentrer dans cette bonnette parce que cette bonnette permet de tenir le micro à la main, de faire des ambiances dans des endroits venteux, donc de faire vraiment des ambiances pour le cinéma dehors. Ce n'était pas le cas avec le 350. Donc c'est un véritable micro portable 5.1. Je ne pense pas qu'on puisse faire comparaison avec le truc de DPA, le ballon de rugby. Donc le problème se situait donc déjà sur la portabilité du micro. Le deuxième problème se situe sur l'écoute des sons de l'ingénieur du son pendant le tournage, après le tournage. Pour ça, donc, le SPS200 est fourni avec un plugin qui transforme le format directement dans un format surround 5.1 jusqu'à 8. Chez DCA, nous avons créé déjà une salle d'écoute où l'ingénieur du son peut, le soir par exemple, venir écouter les sons qu'il a fait dans la journée. Et par ailleurs, nous lui fournissons un petit ordinateur, un petit IPC, avec le logiciel qu'avait préconisé donc Jean-Marc Lotel, qui s'appelle Reaper, et qui est un logiciel un peu analogue à Samplitude ou Vega, et qui, grâce au surround, permet de décoder l'ensemble de ces sons. Le problème, c'est qu'après, au niveau du montage, rien n'est fait. Je pense que dans le cinéma, on n'est pas encore prêt à intégrer ce format-là. Les mixeurs, eux, ne veulent pas entendre parler de décodage. Donc il faut que ce soit le monteur son qui lui fournisse déjà les pistes décodées. C'est un peu dommage parce qu'une écoute dans une salle de montage n'est pas une écoute en auditorium. Même certains monteurs préfèrent qu'on leur donne du 5.1 plutôt que du Centre-Field de format A ou même format B. Donc il y a encore, je pense, une réflexion à avoir, et je pense qu'on la fera au niveau de l'AFSI, sur une continuation de toute la post-production de ce format A ou du format B, de savoir qui décode à quel moment. Voilà.
Pour éclairer encore un petit peu plus les choses par rapport à Jean, et parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de la différence entre le format A et le format B, en fait, le format A consiste à prélever le signal des 4 capsules qui sont orientées dans des angles tout à fait différents. Le format B est une adaptation du format A qui consiste à extraire des composantes, une composante à pression donc omnidirectionnelle qu'on appelle W dans le langage de ce format B, une composante bidirectionnelle avant-arrière qu'on appelle X, une composante bidirectionnelle gauche-droite qui s'appelle Y et une composante dont on n'a pas besoin dans le 5.1 mais qui permet de mettre le micro dans n'importe quelle position et aussi de faire des projections sonores spatialisées avec l'axe haut-bas. Ça veut dire que aussi, quand on travaille avec un microphone à format A, on a besoin de 4 canaux d'enregistrement. Si on travaille avec un microphone à format B, on peut se satisfaire de seulement 3 canaux. Si on laisse tomber le haut-bas, ça gagne un peu de place sur les enregistreurs. Ça permet d'utiliser certaines consoles de mélange portatives à 3 entrées. Le format A ne peut pas être écouté sur le plateau. On doit écouter une capsule, une autre, ça je l'ai dit tout à l'heure. Par rapport au format B, et si on parle du Soundfield ST250 ou 350, il existe donc un préamplificateur qui est incontournable, il fait partie du micro. Donc il y a un câble d'une longueur finie entre le micro et ce préampli. Et ce préampli dispose d'une sortie casque dans laquelle on peut faire un matrissage gauche-droite ou MS, donc extraire les composantes MS, puisque vous savez probablement que si on fait la somme d'un omnidirectionnel avec un bidirectionnel, on obtient l'équivalent d'un cardioïde. Si on fait la différence, on a un cardioïde aussi, mais tourné dans l'autre sens. Si on fait la somme de deux bidirectionnels à 90 degrés, l'un par rapport à l'autre, on obtient un bidirectionnel qui est exactement à 45 degrés par rapport à chacun des deux bidirectionnels dont on a fait la somme. À partir du moment où vous savez ça, vous pouvez déduire comment on fait un canal central avec le format B. On fait W plus X, c'est-à-dire l'omni plus l'avant-arrière. Ça fait un cardio tourné vers l'avant. Pour faire le canal gauche, on va faire W plus X plus Y. Ça fait décaler la composante bidirectionnelle de 45 degrés vers la gauche. Et puis, ça veut dire aussi que par rapport aux trois canaux du format B, c'est-à-dire W, X, Y, si on commence à jouer sur des matrices plus complexes, on peut faire tourner l'équivalent d'un micro mono dans toutes les valeurs d'angle en azimut, en élévation si on a le Z. On peut créer des effets de rideau stéréo. On peut décoder du surround non pas en 5.1, mais aussi en 7.1. Et d'ailleurs, les plugins fournis par Soundfield permettent de faire ce décodage ou cet encodage, c'est comme vous voulez. Il faut savoir que ces plugins sont prévus pour les plateformes Nuendo, Pro Tools et VST. Voilà. Ça veut dire que ces plugins ne rentrent pas dans les enregistreurs portables. Alors, pour le format, je vous ai dit, il n'y a aucune chance. Vous avez besoin d'un enregistreur à 4 canaux et vous vous débrouillez pour l'écoute. Pour le format B, vous avez une sortie stéréo sur les préamplis. Ou alors, bon, il se fait que j'ai servi un peu d'interface entre Soundfield et Aton. Et j'ai imaginé une matrice d'écoute qui va faire l'objet d'une mise à jour du logiciel du Kantar qui permet d'écouter, j'ai appelé ça tête tournante en fait. On peut écouter avec deux oreilles, l'avant, la gauche, l'arrière, la droite. L'idée, c'est que, en fait, moi, comme je suis un preneur de son qui travaille sur le terrain, sur des lieux dans lesquels se trouve la source sonore, donc je ne fais pas de prise de son musicale, mais plutôt de la prise de son d'ambiance et de bruit et d'effets spéciaux. Donc, je suis toujours en présence de la source sonore. Alors, il y a un problème quand on écoute avec un casque dans un lieu éventuellement bruyant. On n'a aucune finesse d'écoute, c'est-à-dire que, sauf si on met le casque à fond la caisse et on devient sourd après une demi-heure, donc ça ne sert à rien. Même si on imaginait un casque extrêmement sophistiqué avec plusieurs haut-parleurs, avec un système d'algorithme qui permettrait d'avoir une spatialisation au moyen de deux oreilles, enfermées dans un casque qui en serre les oreilles, à cause du fait que l'ambiance sonore est proche du preneur de son, on n'entendrait pas ces subtilités. Et donc, je me suis dit, ça ne sert à rien de développer un système d'écoute en biophonique sophistiqué pour un preneur de son qui se promène dans la nature. Et les autres, qui font de la prise de son musicale, je ne pense pas qu'on puisse la pratiquer au casque. Et donc, il faut s'installer dans un local d'écoute adapté avec une écoute. Il faut se placer dans la condition de l'auditeur. Dans ce cas-là, certains plugins, et notamment... Enfin, les plugins ne sont pas satisfaisants, mais il existe aussi des processeurs en temps réel qui permettent donc d'extraire le format B et de travailler en 5.1. La différence entre le format B et ceci ou le ballon de rugby, le ballon de rugby, il vous mange 6 canaux ou 5 si vous laissez tomber le grave que vous pouvez refabriquer après. Celui-là, il vous en mange 4 et le format B vous permet de couvrir le plan horizontal spatial avec seulement 3 canaux sur l'enregistreur. Je vais vous repasser la parole et après, je voudrais encore intervenir une seule fois à propos de la problématique du surround dans la démarche de prise de son.
Alors, simplement, on peut se dire, mais finalement, entre les deux concepts qui sont coïncidents versus non coïncidents, quelles sont les forces et les limites de chaque système ? Sans tomber dans des caricatures, c'est vrai que se promener avec une antenne de télévision est parfois un problème. Se promener avec un outil, que ce soit le 200 ou le 250 ou le 350 de ce type, est moins problématique et un peu plus discret. Alors surtout, indépendamment, et je l'ai évoqué tout à l'heure, de la question de la captation à un moment dans un événement, ce qui est important, c'est qu'avec des micros de ce style, on peut déporter une partie de la spatialisation dans un temps ultérieur. Quand on utilise un système dit non coïncident, ça veut dire que le placement dans le lieu est fondamental. Mais surtout, si je me promène avec un arbre de Noël, je vais pouvoir jouer sur des déplacements entre les différents éléments de captation. Et une fois que je les ai mis à 17 cm, à 23, à 50 ou à 3 mètres, c'est fixé, c'est fini. Je fais ma captation et après, les marges de manœuvre pour bouger les curseurs au sens figuré dans un deuxième temps, c'est plus compliqué. D'où l'intérêt du système coïncident, qui a ses forces et ses limites, c'est que, étant donné, et comme Philippe nous l'a décrit, on va jouer sur des décalages par des combinaisons. C'est un petit peu comme si dans une courbe sinus-cosinus, on pouvait se positionner à différents degrés de la courbe. Et donc, quand j'additionne des courbes montantes et descendantes, suivant les niveaux auxquels je me situe, je peux arriver à des combinaisons avec une très grande diversité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, alors effectivement, il existe la possibilité, et on en a parlé, de plugs, pour pouvoir décoder le signal, le dématricer après. Il existe, et j'en ai un, c'est un rack 1 pouce, ça s'appelle le SP451, je crois, qui permet de décoder le format B en temps réel. Alors ça, c'est utile pour la télévision, pour des matchs. Vous savez que le Sunfield, c'est du matériel anglais. Tous les stades en Angleterre sont équipés avec ce genre de choses. Et ça permet aujourd'hui, sur la télévision et la TNT HD avec le son qui va bien, de pouvoir décoder en temps réel le signal pour exploiter tout de suite la captation avec les 350 formats B et de le décoder en 5 points tout de suite et voir de régler les différents éléments. Mais l'intérêt, quand on a une captation au format B, c'est de pouvoir, dans un deuxième temps et en post-production, pouvoir retravailler l'ensemble de cette combinaison en fonction d'impératifs variés. Étant donné qu'on a une mise en place sonore en 3D avec un volume complet, on va pouvoir, par ces combinaisons, renforcer, comme si on avait un cardioïde versus hypercardioïde, pour aller chercher plutôt un instrument qui, pour différentes raisons, serait plus ou moins en avant. Alors c'est sûr que, par exemple, Francis va nous parler de la captation qu'il a fait pour ce concert. C'est sûr que si on a 5, 10, 15, 20 micros sur place, imaginons qu'il y ait 30 musiciens, qu'il y ait 30 micros, en post-production, on fait ce qu'on veut. Avec ce système-là, on est à un certain endroit, donc à une certaine distance. La marge de manœuvre est plus faible parce qu'on va pouvoir déplacer le microphone dans l'espace, mais on ne va pas pouvoir effectivement aller à un endroit quelconque, se déplacer au-delà d'une certaine limite. Francis, c'est prêt ?
C'est un orchestre à plectre, l'Estudiante INA d'Argenteuil, de 30 à 50 musiciens. Dans ces musiciens, les plus jeunes ont à peu près 7 ans et les plus âgés... jusqu'à ce que mort s'en suive, on va dire. Ça permet surtout aux jeunes de travailler avec des amateurs et des professionnels, et donc d'être assez tous unis pour pouvoir faire des concerts. Dans les instruments, nous avons de la mandoline, des mandoles, des mandolocelles, des guitares et une contrebasse. Je vais peut-être prendre le micro à chef. Dans ce cas, le micro a été placé ici. Plus proche des guitares, parce que les mandolines portent énormément, beaucoup d'énergie spectrale. Alors, je suis parti, il n'y avait aucun enjeu professionnel pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai fait, c'est ma première prise de son en ambisonique. Donc, j'avais un enregistreur que je ne connaissais pas, enfin, tout le matériel, je ne le connaissais pas. Donc, avec tous les risques que cela peut comporter dans les saturations. Là, on voit plus l'orchestre, la contrebasse, à peu près tous les âges, les guitares. Et du xylophone et métallophone. Alors là, aux répétitions, la musicienne était placée un peu sur le côté. Et pendant le concert, elle était placée plus au centre. Et là, c'était un petit peu plus dur pour réobtenir l'équilibre. Je vais vous faire entendre des extraits. La salle n'a pas été calibrée.
Simplement, très rapidement, on a évoqué ici, on est sur le 5.1. Et là, on peut passer 6.1, 7.1 et 8. Et ici, on peut régler l'ensemble des 5 canaux, le bass... et puis le master, et c'est là où on va jouer sur les différents éléments, entre guillemets sinus-cosinus, pour pouvoir jouer sur des rotations et différents effets. Et c'est ça le gros intérêt, c'est qu'une fois que la captation a été faite, vous pouvez retravailler ça, même 20 ans après.
Alors c'est vrai que pour l'écoute, un casque me servirait uniquement à vérifier si je ne sature pas ou s'il n'y a pas de défaut dans ma chaîne audio. En effet, les enceintes permettent d'avoir l'espace que permet pas. Avec le casque, on n'a pas cette sensation d'espace et d'image fantôme. Donc, faire une prise de son au casque, lorsqu'il y a des instruments pincés et des instruments frottés, moi, j'y arrive pas. J'ai toujours été déçu dans l'équilibre, enfin en couple AB. J'ai toujours été déçu dans l'équilibre en rentrant à la maison. Donc depuis, je fais toujours mes prises de son avec une paire d'enceintes. Donc là, comme c'est expérimental, et je suis parti avec un casque. De toute façon, je peux toujours zoomer sur certains instruments grâce au plug, changer la rotation de mes micros, zoomer, pour pouvoir rattraper un instrument qui serait un petit peu perdu. Le niveau, je ne sais pas trop. Comment ça va sortir? Tête, on va pouvoir tourner le micro. Là, je le tourne à 180 degrés. Donc ici, on serait plutôt au côté public. Je m'attendais pas, lorsque j'ai fait la prise de son, que la salle soit si amortie. C'était une salle qui était très sèche. Et pour les arrières, c'est un petit peu difficile. Donc, pour essayer d'attraper un instrument, on cherche dans la direction l'instrument qu'on veut attraper. Et avec le zoom, on essaye de le faire revenir. En fait. J'aime bien les prises de son assez larges, avec la captation de l'ambiance, c'est-à-dire... Je conçois qu'il y a l'instrumentiste, son instrument et le lieu. Les trois, pour moi, ne sont pas séparables. Donc les prises de son de proximité, c'est pas mon école. Mais je respecte, hein, c'est pas... Alors voici donc avec le métallophone et le xylophone, et là, c'est pas équilibré. Autre prise de son où les pieds des musiciens vont intervenir. Toujours dans le même concert. Ça va dépoussiérer peut-être le caisson de basse. c'était l'émotion avec des mains. Donc le gros avantage, je trouve, du format B, lorsqu'on va enregistrer un concert, parfois les répétitions ne se font pas en une partie. C'est-à-dire qu'il y a, que l'ensemble du concert est répété, c'est pas comme une italienne. Et il arrive de temps en temps qu'on n'a pas pendant la répétition, soit aussi on n'a pas dans la répétition tous les musiciens. D'autre part aussi, il y a des musiciens qui interviennent au dernier moment, qui n'interviennent pas les répétitions. Et là, pour placer les micros, c'est parfois un peu délicat. Là, par exemple, j'étais placé à un endroit qui servait à la sortie de la salle pour toute la partie qui était à jardin. Il a fallu que j'évacue assez rapidement. Donc là, j'étais content d'être en léger. Remercier Florentino Calvo qui s'occupe de cette formation, de cet orchestre, particulièrement qui me permet de temps en temps de pouvoir les enregistrer facilement. Merci.
En fait, là depuis tout à l'heure, on parle purement technique, etc. Moi, je suis à la fois technique et musicien et je me pose toujours la question, on fait de la technique, on essaie de rendre l'orchestre le plus fidèlement possible à l'auditeur. Est-ce que vous consultez après coup le chef d'orchestre pour savoir s'il est satisfait de votre mixage et puis de votre point de vue?
Alors,
en fait,
là, c'est un cas particulier. Là, pour moi, j'étais dans un cadre plus expérimental. Mais d'habitude, lorsque je fais de l'enregistrement, ce sont les musiciens qui viennent faire le montage avec moi. Il y a un directeur artistique à l'enregistrement. Et le musicien fait ses propres points de montage. Bien sûr, il y en a qui techniquement passent moins bien. Et dans ce cas-là, je lui conseille un autre point de montage en lui montrant mes difficultés. Parfois, le point de montage pour lui est très bien. Il me dit, bon, on passe au point de montage suivant. Et je lui dis, écoute, moi, je peux te proposer peut-être quelque chose de mieux. Écoute. Mais en effet, on n'a pas la même analyse. Et si les musiciens n'ont pas du tout l'expérience de la prise de son, ils ne sont pas du tout sensibles au queue des réverbérations, au silence. Quand ils ne font pas du tout d'enregistrement et peu de concerts, ils ont du mal à s'adapter aux acoustiques de salle, parce qu'on ne joue pas au même tempo dans une salle réverbérée ou dans une acoustique sèche. Donc j'essaye d'être très proche des musiciens.
Oui, ça tombe à point nommé pour la question, par rapport à ce que je voulais dire. Donc je viens de Belgique, je donne des cours au Conservatoire Royal de Mons à des compositeurs, des cours de prise de son. Et pour moi, c'est une opportunité de leur mettre des idées dans la tête pour faire avancer un peu les choses. Alors, en fait, on est en train de parler du surround et pour nous, les ingénieurs du son qui nous promenons parfois au milieu d'un orchestre en train de répéter, on est dans des situations où on est entouré par la source. Ce que je veux dire, c'est que quand on faisait de la stéréophonie, ça avait du sens de placer un couple stéréo au-dessus de la tête du chef d'orchestre, puisque lui règle des équilibres par rapport à une scène, disons, à l'italienne, où il y a un public qui regarde quelque chose qui lui fait face. Maintenant, à partir du moment où on aborde cette technique et où on a dans les salons des gens, des installations comme ça, moi j'aurais tendance à dire, mais il faudrait que le point d'écoute se déplace et qu'on fasse, on commence à faire des prises de son dans lesquelles ce n'est pas le public absent
qu'on essaye d'alimenter avec une prise de son, mais un microphone autour duquel les choses s'articulent. Et voilà le problème, c'est-à-dire que pour moi, je vais prendre un exemple, c'est les Vêpres de Monteverdi ont été écrites pour Saint-Marc, où les chœurs se placent dans des coursives et ils sont spatialisés. Ça a du sens, et une prise de son stéréo de ça, c'est ridicule. Une prise de son en biophonique de ça, ça remet l'œuvre dans son contexte, c'est-à-dire des chœurs qui ne sont pas situés à l'arrière d'un orchestre, ils sont répartis dans l'espace. Alors, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il y a une nouvelle écriture qui doit se faire, c'est qu'on doit proposer aux compositeurs et aux chefs d'orchestre, d'une certaine manière, quand on fait un enregistrement, sachant qu'un concert, il y a 500, 1000 personnes, un disque, il y a beaucoup plus de monde, il faudrait tenir compte un petit peu de la quantité de gens qui vont recevoir cette œuvre et travailler pour eux, c'est-à-dire avec des techniques qui leur permettent de ressentir des choses, mais au milieu d'un événement sonore. Et ça change un petit peu toutes les perspectives. Ça donne beaucoup d'attrait nouveau à notre métier, mais ça ramène tout, comme je l'ai dit hier, aux relations humaines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un chef d'orchestre qui se prend pour Dieu ou un compositeur qui se prend pour Dieu, ça ne fonctionnera jamais. Dans mon cours, dans un conservatoire des compositeurs, je profite de la tribune pour leur dire voilà, il y a moyen de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, le contexte qu'on a abordé ici avec cet extrait est totalement différent, c'est-à-dire qu'il y a un événement sur lequel on n'a aucune prise. Et donc, forcément, il faut déployer de l'imagination, et dans ce cas-là, la mise en œuvre de ce système est extrêmement avantageuse, puisqu'on peut corriger et adapter énormément de choses a posteriori.
Si vous avez encore un petit peu de patience, si vous voulez écouter quelques extraits rapides, donc c'est le chœur de la radio-télévision de Mongolie. Donc vous imaginez une église avec une scène assez importante qui est à 1 mètre du sol. Vous imaginez que cette scène fait à peu près 10 mètres de longueur. Au dernier tiers, vous avez 2 étages, dont le dernier est à peu près cette hauteur du sol, devant le reste de l'église. Et là, vous avez 50 personnes venant de Mongolie qui vont chanter, plus des musiciens solos et des choristes solos. Et donc la question, c'était de faire une captation qui pouvait être la plus flush deck possible, le moins d'instruments en l'air ou par terre, le moins de fils possible, parce qu'il y a des déplacements. Et en même temps, il y a des moments où il y a des solistes qui sont en avant et il y a l'ensemble du chœur qui est derrière. Donc toute la question, c'était de trouver un compromis, le Soundfield en étant une. Donc c'est une grande perche de 9 mètres avec un pied grue à treuil qui est sur un coin derrière une colonne. Donc ça permet d'avoir le minimum de désagréments visuels. Et le Soundfield était positionné à peu près à 3,50 m au-dessus de cette scène, de façon à ce que les gens qui étaient en fond d'église aient le microphone à peu près à 1,50 m au-dessus de la tête des gens qui étaient les plus hauts, à l'arrière, de façon à ce que ce soit le moins nuisible possible, sachant que les gens qui étaient devant, plus se rapprochaient, plus le microphone était haut. Et le microphone était positionné à peu près à 1,80 m, 2 m devant la première rangée des gens qui étaient dans le chœur derrière, mais se trouvait parfois à l'arrière de ce soliste qui était devant. Et comme il n'était pas possible de trimballer tout ça en permanence, parce qu'une perche de 9 mètres, avec 1,2 kg au bout, plus les fils, quand vous le trimballez, ça a du ballon. Et puis, ça serait quand même assez gênant que quelqu'un se la reçoive sur la tête. On n'a pas optimisé la salle en fonction de l'écoute pour les raisons que vous avez vues tout à l'heure d'installation. ça, c'est uniquement une résonance dans l'ensemble du système de la voûte palatale. Et il chante à lui tout seul sur trois pupitres. Il a juste une espèce de petit instrument à cordes. Et là, le musicien est devant, le microphone étant à peu près à un mètre derrière. Voilà, comme le temps passe, et puis en même temps, si vous avez des questions. Donc, accessoirement, l'intérêt de pouvoir modifier, après la captation, par l'intermédiaire du plug, les différents éléments de spatialisation, entre autres dans ce cas-là, peut avoir son intérêt.
Finalement, on va devoir aller chercher une des composantes et refaire le matrissage. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver aussi avec les instruments de gauche qui vont revenir, qui vont passer derrière, un instrument qui va s'éloigner quand on en rapproche un autre? Enfin,
alors, effectivement,
on n'habille pas Jean pour déshabiller Paul. Ouais. Qu'est-ce
effectivement, donc dans ces cas-là, effectivement, on peut se retrouver. Alors, à partir du moment où on a X pistes, qui sont le dématrissage de la captation, on peut imaginer de faire un copier-coller de l'ensemble des pistes, imaginer un autre dématrissage et après jouer sur un mix de l'ensemble du premier dématrissage versus le deuxième dématrissage. On peut multiplier la chose. Alors pourquoi c'est faisable? Parce qu'on est sur un système coïncident, on n'a aucun décalage de phase. C'est donc le seul système qui permet cette mixité en post-production, alors que tout système coïncident ne permet pas à cause du décalage de phase, parce qu'à ce moment-là, c'est l'explosion combinatoire, on ne maîtrise plus rien. Ça veut dire que si on arrive dans un dématrissage 2, voire 3, à privilégier un angle, à la limite en réinjectant dans le mixage final cet angle-là, un petit peu comme j'ai deux solutions pour faire ma captation, de multiples microphones et au moment du mixage, je vais jouer sur un équilibre pour faire sortir un instrument, voire quand j'ai un soliste, par exemple quand j'ai un orchestre de jazz band, un moment pour un solo, je vais redonner de la présence à un instrument et la diminuer quand tout le monde joue. On pourrait imaginer, avec un système coïncident mono-microphone, de faire l'équivalent en post-production. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai mes quatre micros, je fais mon système de matrissage dans la complexité et je me retrouve après dans une sorte de vision artificielle d'une captation à plusieurs microphones. Alors, bon, ça a sa limite, mais on peut jouer un peu sur ces différents éléments.
Finalement, on a des micros d'appoint virtuels, en fait.
Exactement. D'accord. Alors, c'est entre guillemets, la marge de manœuvre n'est pas non plus. Alors, notamment dans une masse orchestrale, on l'a vu avec les photos de Francis, à partir du moment où vous avez une captation qui est à un endroit, si j'ai des musiciens qui sont à 3 mètres de distance et d'autres qui sont à 6 mètres, je ne vais pas vous apprendre, sachant que le développement de la puissance sonore étant directement lié à la distance, ça veut dire qu'en fonction de ça, je vais pouvoir déplacer mon microphone d'une façon relativement limitée, mais je ne vais pas pouvoir aller chercher un instrument qui est au fond, au-delà d'un certain seuil. Tout ça est quand même très subtil.
Merci. C'est intéressant d'avoir pu entendre plusieurs œuvres enregistrées durant toute l'après-midi avec différents systèmes. En tout cas, ce que j'ai trouvé du point de vue où j'étais ici, c'est-à-dire pas forcément très bien placé, mais ça, d'ailleurs, ça permet d'amener le sujet du sweet spot. Je pense que les arguments qui ont été posés en début d'après-midi se sont vérifiés par ce que j'ai entendu, c'est-à-dire l'envoûtement, ou on appelle ça comme on veut, enfin, la sensation d'enveloppement.
Enveloppement, c'est moins connoté.
Voilà, je pense que la sensation d'enveloppement, pour moi, fonctionnait mieux, enfin, je vous le dis, c'est subjectif, bien sûr, mais je pense que je ne dois pas être le seul, dans le cadre de la prise de son avec l'arbre de Noël, comme vous l'appelez, que dans le cadre du Soundfield. Et je pense que, et je reprends ce que disait Philippe, à mon avis, il ne faut pas poser de système en opposition en parlant d'arbre de Noël ou d'antenne de télévision. Je pense qu'il faut poser les choses comme des usages dédiés. Il me semble que c'est beaucoup plus intéressant de fonctionner comme ça. La configuration d'un orchestre contemporain, par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup dans la spatialisation sur les musiques contemporaines. Le Soundfield peut être très intéressant, mais pas forcément tout seul. D'ailleurs, on peut imaginer coupler le Soundfield avec des micros d'appoint, pourquoi pas? On peut très bien travailler avec des délais. À partir du moment où vous dites que vous travaillez en post-production avec du décodage, pourquoi pas imaginer un mix
mixage, avec éventuellement des micros d'appoint, des délais, des travaux comme ça. Si on a du temps pour faire du décodage, on a du temps pour mixer. Et je pense que c'est à chaque configuration, à chaque cas particulier qu'il faut se poser la question en prenant non pas un système contre un autre, mais plutôt un usage dédié pour un autre.
C'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure, hein, mais je ne sais pas si vous étiez déjà là. Ce qui a été dit tout à l'heure, ce n'est pas d'opposer des systèmes, c'est de dire qu'il y a des configurations dans lesquelles un système est un peu plus confortable qu'un autre. Ça a été
dit.
Je ne
pense pas que c'est en termes de confort qu'il faut raisonner, c'est surtout en termes de résultats sonores, parce que c'est quand même ça qui nous importe. Le confort, votre confort, finalement, vous aviez une perche de 9 mètres avec un poids d'un kilo, c'est pas forcément ce qui est plus confortable.
Non, de 15 kilos le poids.
Mais de 15 kilos.
De l'autre côté.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est quand même le résultat sonore qui compte avant tout. Et c'est vraiment. Enfin, c'est important de bien resituer les choses dans ce contexte-là. Voilà.
Mais un arbre de Noël n'a rien de péjoratif. Hein. C'est juste que se promener.
J'ai trouvé ça drôle.
Oui, c'est. Non, mais il y a des moments où c'est pas très pratique de se promener avec quelque chose qui est assez encombrant. C'était juste pour faire allusion à ça. Sans aucun jugement de valeur. D'autres, oui.
Je voulais savoir quel est éventuellement le gros avantage du système Soundfield par rapport à un double MS qui est tout aussi portable et qui est aussi travaillable a posteriori.
Il y a un peu moins de 3 ans, l'AES a organisé une réunion pendant 3 jours au studio Lab de Orange à Rennes. Et les 3 jours ont commencé par une après-midi et une soirée de captation dans une salle de théâtre où il y avait un orchestre de jazz, un big bang, un orchestre de chambre, plus une comédie musicale, donc une assez grande variété de situations. Et il y avait là une 20aine de systèmes de captation, depuis les têtes artificielles Neumann et compagnie, en passant par tous les arbres possibles et imaginables, en passant par du double MS, du Soundfield, etc. Et ensuite, dans les 2 jours qui ont suivi, indépendamment des conférences théoriques, il y a eu des écoutes qui ont été faites de ces différents systèmes. Et on est tous arrivés à la conclusion que, indépendamment des lieux d'écoute qui n'étaient pas forcément strictement les mêmes, dans des conditions qui étaient strictement identiques, qu'effectivement, c'était assez complexe de dire « celui-ci est bon, celui-ci n'est pas bon ». C'est dans d'autres termes que la chose se pose. Donc, en ce qui concerne très spécifiquement double MS versus Soundfield, je ne sais pas si...
Ni dans le Soundfield, ni dans le double MS, on atteint... le degré intelligent qui consisterait, je pense, à mettre un micro à pression et deux bidirectionnels. Dans le format B et dans le format A, la composante Omni est la résultante de la somme des 4 capsules. Or, il s'agit de 4 capsules à gradient de pression qui ont des effets de proximité, qui ont une sensibilité au vent, sensibilité à la manipulation. Un micro à pression n'a pas ces problèmes. Et donc, à part la diffraction, mais elle peut être compensée par le fait qu'il y a deux bidirectionnels croisés. Mais il n'y a encore aucun fabricant qui l'a fait. Et si moi, je devais faire un système double MS, effectivement, je prendrais 2 capsules bi et 1 omni. Ça me semble plus logique que de mettre 2 cardio dos à dos pour faire un omni. Et puis aussi, je pense qu'il y a des brevets de Gerson qui doivent bloquer les choses, à mon avis, parce que... il a mis beaucoup de choses en musique et donc je veux dire qu'il a déposé des brevets et je ne pense pas qu'on puisse faire ce qu'on veut si on est fabricant de micros.
Blomlein aussi avait des brevets. Hein.
Oui, voilà. Oui, mais bon, ça se passe à une autre époque. Gerson est mort dans les années 80, je pense. Fin des années 80.
Pour les gens qui ne savent pas, il faut peut-être préciser, Michael Gerson, c'est le créateur du Soundfield.
Ouais. Voilà. C'est l'inventeur du système. Alors, je suis étonné, je faisais allusion à cette réunion de l'AES à Rennes. Depuis, il y a l'Holophone qui est sorti, il y a DPA qui a sorti son système. Holophone a sorti aussi, ils ont 3 modèles différents suivant la taille, dont un petit système qui ressemble à une grosse boîte d'allumettes qui est fait pour notamment les captations en vidéo, notamment avec les nouveaux formats HD. Je ne sais pas si d'ici 2 ans, imaginons que nous soyons non pas en 2009, mais en 2011 ici, peut-être qu'on aurait encore 2-3 systèmes différents qui viendraient compléter les systèmes qui existent déjà. On est sur quelque chose qui reste encore relativement ouvert. En ce qui nous concerne ici, nous ne sommes pas là pour promouvoir ou nous ne sommes pas liés à une marque ou à un modèle. Et donc, on n'a pas d'école en tant que telle. Simplement, pour compléter ce que disait Jean-Marc Lotel a développé cet environnement qui est à disposition chez Tapage, où vous avez cette machine... avec le petit plug en MIDI qui permet de manipuler le surround sound. L'objectif, c'est qu'il y ait des lieux dans lesquels vous puissiez, ou d'autres, venir manipuler, jouer avec, de façon à vulgariser un peu plus ces différentes solutions. Et comme le disait Cyril, ce qui est intéressant, c'est de ne pas forcément être l'adepte d'une école, mais éventuellement de marier différents systèmes. Et ce n'est pas parce qu'on a un sous le film coïncident que ça n'empêche pas après d'utiliser simultanément d'autres systèmes. Alors après, bon, il y a des quincailleries qui font que, à défaut de se nommer Shiva avec des bras de tous les côtés, à défaut d'avoir des systèmes de multi-prise de son, bon, c'est vrai que nos machines actuellement ne permettent pas forcément, surtout en nomade, de prendre facilement 4 pistes, 5, 8, 10, 12, 15, etc. Il y a un moment où on ne peut plus gérer. Donc voilà.
Ça consomme combien sur Alien Phantom, sur le Zoomfield ?
Alors le Zoomfield, je ne sais pas exactement en termes de watts précisément, sachant que, attention, il y a dans le Zoomfield 350, dans le câble à 12 paires, il y a une paire qui a pour vocation de chauffer le microphone. On a une résistance électrique dedans qui fait qu'on peut, quelles que soient les conditions de température et d'hydrométrie, a priori être dans un système relativement standard. Ça, c'est spécifique de 350. Sur le 250, c'est fonction de si on l'alimente par batterie ou sur le secteur. Grosso modo, avec une NP1, on arrive à tenir une journée
Si tu parles du SPS-200, celui-là, oui. Ça consomme 4 fois un micro électrostatique, mais je ne sais pas quel est le nombre de milliampères. Oui, c'est ça, maximum. Pour le 350, il consomme une quinzaine de watts, ce qui est assez épouvantable, parce que ça veut dire 3 heures pour une NP1 environ. Pourquoi ? Parce qu'il y a un préchauffage des capsules. En fait, les 4 capsules sont mises à une température égale. Ça évite de la condensation, mais ça consomme beaucoup. Alors, sur le 250, 2 piles mono d'un volt et demi permettent de travailler plusieurs dizaines d'heures. Et dès qu'on passe sur secteur, parce que là, il est possible de mettre une prise secteur sur le boîtier, le préchauffage des capsules se met en marche. Ce qui a valu une mauvaise expérience, je pense, à quelqu'un qui travaillait dans une église. En fait, l'église n'est pas chauffée, on installe un microphone, on fait une répétition éventuellement avec l'orchestre, et puis il y a 400 personnes qui rentrent et qui respirent, qui sont éventuellement humides, et le preneur de son travaillait sur pile parce qu'il se disait que ça allait éviter une petite ronflette éventuelle due au secteur, et donc il n'y avait pas le préchauffage, ce qui fait qu'il y a eu une condensation sur les capsules et il y a eu des craquements et un bruit de sous-marin sur sa prise de son. Donc ce que je veux dire, c'est que ces micros sont relativement chatouilleux en ce qui concerne l'humidité. Et là aussi, on pourrait attendre quelque chose de magique de chez Sennheiser avec la série MKH. Est-ce qu'il y a des gens de chez Sennheiser ici ?
Le temps passe, il va y avoir une autre conférence qui va s'ouvrir sur les studios avant et maintenant. Sinon, dernière question.
Le plugin fonctionne en stand-alone, celui qu'on voit là pour le décodage ?
Indépendamment
oui,
de...
Oui, c'est-à-dire là, il a l'air de tourner sans application.
Si. Avec Reaper, je vais essayer de vous faire monter à l'écran.
Avec Reaper, Pro Tools et autres...
Et tous les paramètres peuvent être automatisés, évidemment. C'est assez magique. J'avais fait un film documentaire sur la chanson yiddish avec des prises de son acoustiques où il y avait des réponses entre le chanteur, les musiciens et le public. Et bon, au mixage, on pouvait retourner le point d'écoute instantanément, et c'est très amusant, évidemment. En gardant toute la même couleur, en fait, c'est le même microphone.
Bon, donc merci à Philippe, Jean et Francis de nous avoir égayés avec leurs commentaires et prise de son.
Autre radio, autre culture.